Radio Classique et votre journée devient plus belle.
Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. Nous sommes le vendredi 22 mai, il est 7h30 pile.
La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
Et merci d'être fidèle à Radio Classique. Il est effectivement 7h30, l'heure du journal présenté par Mélina Fachin. Bonjour Mélina.
Bonjour Renaud, bonjour à tous.
Les croyants attendaient cela depuis plus de 2 mois. Ils vont bientôt pouvoir retrouver leur lieu de culte.
Le gouvernement devrait annoncer en début de semaine la réouverture des églises, des mosquées, des temples et des synagogues. Lundi dernier, le Conseil d'État lui a en effet demandé de lever sous 8 jours l'interdiction de fréquenter les lieux de culte, une mesure jugée disproportionnée. Attention toutefois, la santé doit rester la priorité, prévient le grand rabbin de France, Haïm Korsia.
De toute manière, il faudra accompagner le moment de la réouverture, quel qu'il soit, par des mesures draconiennes comme la distance, des masques, du gel, la limitation du nombre de personnes, la gestion des flux. Ça sera une gymnastique un peu compliquée, mais on le fera, on est prêt à le faire. Mais je crois qu'il faudra le faire dans des conditions strictes de sécurité sanitaire, parce que si on le fait pas comme ça, les fidèles n'auront pas confiance dans les organisateurs, c'est-à-dire les responsables des lieux de culte, et ça risque de prolonger la désaffection, ou voire pire, de forcer à refaire une mesure d'interdiction, ou encore pire, une mesure de reconfinement. Donc je crois qu'il faut une extrême prudence.
Le grand rabbin de France au micro de Lucie Coquart. Prudence également, préviennent les représentants des musulmans de France. Le ramadan se termine ce week-end, mais il faut à tout prix éviter les grands rassemblements.
Et on en reparlera à 8h15 de cette réouverture des lieux de culte avec mon invité, l'évêque de Nanterre, Monseigneur Mathieu Rouget. Sur le plan sanitaire, la crise semble ralentir en France. 83 décès ces dernières 24 heures et le nombre de patients en réanimation continue de baisser. Mais sur le plan économique, ce n'est peut-être que le début de la crise.
De nombreuses entreprises sont en grande difficulté, voire au bord de la faillite. Selon une enquête de la start-up StaffMe, plus d'un chef d'entreprise sur 5 envisage de licencier certains de ses salariés dans les prochains mois. Et cela touche particulièrement certains secteurs, explique Jean-Baptiste Achard qui a mené cette enquête. Il était tout à l'heure l'invité de Radio Classique.
Comme on pouvait s'y attendre, les secteurs qui s'annoncent les plus touchés sont évidemment la restauration, le tourisme, secteurs qui ont été complètement à l'arrêt, qu'ils sont toujours d'ailleurs, mais aussi d'autres secteurs comme le commerce, le retail. On le voit aussi dans l'actualité avec Alinéa. Toutes ces entreprises vont avoir du mal à redémarrer. Les licenciements sont attendus dans ces secteurs d'activité.
Mélina, les difficultés ne pèsent pas que sur les petites entreprises.
Certains grands groupes, eux aussi, sont dans une situation alarmante. Renault joue sa survie, c'est ce que déclare aujourd'hui Bruno Le Maire dans les colonnes du Figaro. Le ministre de l'économie encourage le constructeur automobile à relocaliser ses activités principales en France. C'est en partie la condition pour qu'il débloque un prêt de 5 milliards d'euros d'aide à Renault. La SNCF, elle aussi, en appelle directement à l'aide de l'État. Avec la crise, la compagnie ferroviaire a déjà perdu 2 milliards d'euros et les règles sanitaires qu'elle doit faire appliquer dans ses trains sont trop strictes, estime le PDG Jean-Pierre Farandou. Une place sur deux seulement peut être vendue, distanciation sociale oblige. La SNCF dénonce une concurrence déloyale entre le ferroviaire et l'aérien, Rémi Vallèze.
Un siège sur deux dans les trains, c'est la règle imposée à la SNCF, tandis qu'Air France, par exemple, n'est pas tenue de respecter la fameuse distanciation sociale à bord. Seul le port du masque est obligatoire. Alors est-ce parce que la compagnie ferroviaire bénéficie du monopole sur les rails, quand la concurrence dans les airs est, elle, exacerbée. Il y a un peu de ça, explique Alain Bonafous, chercheur au laboratoire d'économie des transports de Lyon.
Ça ne peut qu'aggraver sa responsabilité, au moins dans l'esprit des usagers, des citoyens et des responsables politiques. Cela dit, qu'est-ce qui serait différent s'il y avait une part significative de notre réseau ferroviaire exploité par des opérateurs autres que l'opérateur historique ? Il y aurait simplement un taux probablement inférieur de droits de retrait, des choses comme cela.
Pour revenir à une occupation de ces trains plus importantes, la SNCF insiste notamment sur la qualité de ses systèmes de ventilation, mais ça n'a rien de comparable avec ce qu'on peut trouver dans les avions, explique Xavier Tittelmann, spécialiste de l'aéronautique.
L'air est renouvelé toutes les 3 minutes, avec un courant d'air qui vient du haut vers le bas, donc il n'y a pas des éternuements qui peuvent se répandre dans l'avion. On est sur un filtre de niveau bloc opératoire. À ma connaissance, les trains n'ont pas des filtres de microbes de niveau bloc opératoire.
Et le patron de la SNCF reconnaît de toute façon que la situation sanitaire ne permet pas encore d'envisager un retour à la normale dans les trains.
Les explications de Rémi Vallèze. Le second tour des municipales aura probablement lieu le 28 juin. Le Premier ministre Édouard Philippe doit l'annoncer aujourd'hui. On en reparle dans le journal de 8 heures.
Le journal sur Radio Classique.
7h35 sur Radio Classique. Mélina, dans le monde, le coronavirus a passé la barre des 5 millions de personnes contaminées.
Et près de 330 000 ont succombé à la maladie. Le pays le plus endeuillé reste les États-Unis, qui mettra ses drapeaux en berne tout le week-end en mémoire de ses plus de 94 000 morts. Le virus progresse aussi de manière alarmante en Amérique latine, notamment au Brésil, où le seuil des 20 000 morts vient d'être franchi. C'est là-bas aussi que le nombre de victimes chez les jeunes adultes, particulièrement les plus pauvres, est l'un des plus élevés au monde.
Le Brésil qui décidément enchaîne les catastrophes.
Vous vous rappelez sans doute de ces immenses incendies qui ont ravagé la forêt amazonienne l'été dernier. Et si le feu est aujourd'hui maîtrisé, l'avenir ne présage rien de bon. Sur les 4 premiers mois de cette année, la déforestation a explosé de 55%. Bonjour Baptiste Gabory.
Bonjour Mélina.
Les spécialistes s'attendent à une nouvelle année noire pour l'Amazonie.
Oui, car en début d'année, le déboisement est en règle générale ralenti. C'est la saison des pluies. La déforestation pourrait donc s'accélérer encore dans les prochains mois et les incendies avec, puisque les arbres abattus sont encore au sol. Ils vont sécher, puis être brûlés pour faire place nette sur les parcelles. C'est ce qui se passe pendant la saison sèche et elle va commencer dans les prochaines semaines. Alors même, vous le disiez, que le Brésil est durement touché par le Covid-19. Le président Jair Bolsonaro a décidé d'envoyer l'armée, sauf que dans le même temps, le gouvernement a démis de ses fonctions l'un des dirigeants de l'IBAMA, la police environnementale brésilienne. Le Congrès devrait également adopter une mesure permettant de flexibiliser les conditions de régularisation des grands propriétaires terriens en Amazonie. Une incitation de plus à la déforestation, selon les spécialistes.
Merci Baptiste Gabory.
Baptiste Gabory, le spécialiste des questions d'environnement sur l'antenne de Radio Classique. Il est pratiquement 7h37. Merci Mélina, on vous retrouve à 8h30. Pour un prochain point d'actualité dans un instant et juste après la pub, les spécialistes Emmanuel Faux, Dimitri Pavlenko et Elodie Fondacci. À tout de suite.